à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 en temps universel du mardi 26 février 2019. Abdourahmane Dia et Raissa Girondin à la présentation. Voici les titres.
Au Nigeria et au Sénégal, les résultats des élections présidentielles tombent au compte-gouttes.
En Côte d'Ivoire, sixième semaine de grève des enseignants, appel des étudiants pour réclamer la reprise des cours.
L'Algérie secouée depuis plusieurs jours par des manifestations contre un éventuel cinquième mandat pour le président Abdelaziz Bouteflika.
Kim Jong-un est arrivé à Hanoï, capitale vietnamienne, qui accueillera demain le deuxième sommet entre les dirigeants américains et nord-coréens. Donald Trump est aussi sur place.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports.
Le championnat national de première division dans les sports, mais tout d'abord le journal.
Présidentielle au Nigeria, la Commission électorale nationale indépendante a commencé à annoncer les résultats partiels et provisoires. Les chiffres sont donnés état par état et pour le moment, ils sont favorables au président sortant Muhammadu Buhari. Le chef de l'État sortant a jusque-là remporté 8 États contre 5 à son principal rival, Atiku Abubakar. Il conforte son avance au plan national avec presque 3,5 millions de voix contre 2,9 millions pour Abubakar. Le pays compte 36 États. C'est donc trop tôt pour annoncer un vainqueur, mais dès lundi après-midi, l'opposition a dénoncé une manipulation des résultats par le parti au pouvoir.
Le Sénégal également dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle de dimanche. Seule la Commission nationale de recensement des votes est habilitée à les donner. Le juge Demba Kandji demande d'attendre la publication des résultats nationaux dits provisoires au plus tard vendredi minuit.
Au Bénin, c'est demain, mercredi, la clôture du dépôt des dossiers pour les élections législatives du 28 avril. Les partis de l'opposition ne sont toujours pas sûrs d'y prendre part. Aucun d'entre eux ne dispose encore de certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques, une pièce importante exigée par la Sénat. Une rencontre avec le chef de l'État béninois s'est tenue hier soir. Pour Patrice Talon, tout a été prescrit par la loi. Votre présence aux élections dépend de vous, a-t-il lancé, avant d'ajouter que l'absence de l'opposition serait malheureuse, mais cela ne sera pas de ma faute. Pour l'opposition, il s'agit d'une manœuvre du pouvoir destinée à les exclure de la compétition.
Nouvelle semaine de grève en Côte d'Ivoire où les écoles publiques sont paralysées depuis plus d'un mois en raison d'une grève des enseignants. Lundi déjà, le gouvernement a suspendu les négociations avec les syndicats à l'origine de cette grève. Le point de la situation avec notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
Plus d'un mois de paralysie des écoles primaires et publiques et toujours pas de solution de sortie des crises en vue dans le bras de fer qui oppose les enseignants grévistes au gouvernement. Entamées en début de semaine dernière, les discussions entre les deux parties ont été suspendues ce lundi. Pacom Atabi, porte-parole de la COSEFC, la coalition des syndicats du secteur éducation et formation des Côtes d'Ivoire.
L'école est toujours paralysée et la discussion a été interrompue de façon unilatérale par la partie gouvernementale. Donc, lundi 25 février, dès l'entame de la deuxième semaine de discussion, le chef de cabinet nous a informé que le gouvernement arrêtait la discussion en raison de la grève qui se poursuit. Et tant que nous serons toujours en grève, il ne discutera plus avec nous. Nous avons des préoccupations qui n'ont pas encore trouvé réponse, donc nous poursuivons sérénement notre mouvement. Nous disons qu'il appartient à l'État de trouver les solutions de sortie de crise à l'école.
Ce mardi, à Abidjan, à Yamoussoukro et à Boaké dans le centre du pays, de nombreux élèves, étudiants et enseignants sont descendus dans les rues pour demander la reprise des cours, aussi bien dans les écoles publiques qu'à l'université Félix Oufo-Boigny de Cocody. Ils ont notamment demandé au gouvernement de faire face aux revendications des enseignants. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, un policier a été blessé dans l'attaque d'un commissariat à Pisila, localité située à 130 km au nord de Ouagadougou. Un poste de gendarmerie a également été attaqué dans la nuit de lundi à mardi, a-t-on appris de sources sécuritaires et locales. Cette attaque a engendré la fermeture spontanée des établissements scolaires de Pisila, ont indiqué des habitants. Nous invitons les acteurs de l'enseignement à reprendre les cours et à ne pas céder à la peur et à la panique parce que la situation est maîtrisée, a lancé le gouverneur de la région du centre-nord, Nandi Sommé.
Les autorités ougandaises ont renvoyé mardi en République démocratique du Congo près de 70 anciens membres de la rébellion du mouvement du 23 mars, le M23. Ce rapatriement arrive après leur amnistie et l'appel du nouveau président qui a appelé au retour de tous les Congolais expatriés. Le porte-parole du ministère ougandais des Affaires étrangères a précisé que les ex-rebelles, accompagnés de 10 membres de leur famille, ont quitté l'Ouganda ce matin via l'aéroport d'Entebbe en présence de représentants de l'ONU.
En République démocratique du Congo, la police nationale annonce l'évasion de 105 détenus lundi de la prison centrale du Bandundu.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump est arrivé ce mardi soir à Hanoï pour une deuxième rencontre avec Kim Jong-un, censé donner la substance à la déclaration symbolique sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne lors de leur précédent sommet. Des précisions de John Linden.
La capitale vietnamienne accueille mercredi et jeudi ce nouveau rendez-vous entre le dirigeant nord-coréen et le président américain. Le lieu exact et le déroulement de la rencontre ont été soigneusement tenus secrets. Donald Trump est arrivé ce mardi à Hanoï. Avant son départ, le président américain s'est voulu optimiste, assurant sur Twitter attendre avec impatience un sommet très productif. Quelques heures plus tôt, et après un voyage par voie ferroviaire de 4000 km, Kim Jong-un était descendu de son fameux train blindé vers Olive, en gare de Dong Dang, une localité vietnamienne frontalière. Peu de détails à filtrer sur la réunion. La Maison-Blanche a simplement fait savoir que les deux dirigeants vont dîner ensemble mercredi soir en compagnie de certains de leurs conseillers avant de se retrouver jeudi pour un tête-à-tête. En juin à Singapour, Kim Jong-un s'était engagé à travailler vers la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Stephen Bigoon, l'émissaire des États-Unis pour la Corée du Nord, a récemment reconnu que Pyongyang et Washington ne s'étaient pas mis d'accord sur la signification de la dénucléarisation.
La Chambre des représentants ici aux États-Unis doit adopter ce mardi une mesure pour révoquer la déclaration du président Donald Trump sur une situation d'urgence nationale à la frontière sud du pays. Le point avec vous, Morgane Guériec.
Les démocrates ont présenté ce projet de loi, affirmant que les actions du président sont contraires à la séparation des pouvoirs, qui donne au Congrès le contrôle des cordons de la bourse. Au niveau de la Chambre, dominée par les démocrates, ce projet de loi sera certainement adopté. Plusieurs sénateurs républicains au Sénat ont indiqué qu'ils soutiendraient également la mesure, mais il reste à voir si elle obtiendra suffisamment de voix pour être envoyée au bureau du président Trump. Ce qui semble certain, c'est qu'une fois à la Maison-Blanche, le chef de l'exécutif usera de son droit de veto. Le président a affirmé que les États-Unis ont besoin d'un mur à la frontière avec le Mexique pour empêcher l'immigration clandestine et arrêter le trafic de drogue. Il a demandé au Congrès 5,7 milliards de dollars pour la construction de ce mur, mais les démocrates ont refusé. Pour contourner le Congrès, M. Trump a déclaré l'urgence nationale le 15 février, ce qui lui permet de réaffecter environ 6 milliards de dollars déjà approuvé à d'autres fins, dont la majeure partie proviendra du ministère de la Défense. Voilà, Abdou.
Merci beaucoup, Morgan.
Merci. On poursuit en moins de 24 heures après avoir annoncé sa démission. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a plaidé mardi pour que son ministère retrouve son statut. Selon un média iranien, la démission était liée à la visite surprise lundi à Téhéran du président syrien Bachar al-Assad.
Un ancien ministre israélien a été condamné à Jérusalem à 11 ans de prison après avoir plaidé coupable d'espionnage au profit de l'Iran. Gonen Segev, ministre de l'énergie et l'ancien ministre de l'énergie et des infrastructures, était accusé d'avoir fourni à l'Iran entre 2012 et 2018 des informations sensibles.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Et c'est Nani Talani qui nous présente la Minute Éco.
D'ici fin 2019, la compagnie canadienne Teranga Gold compte avoir 2 mines capables de produire entre 300 000 et 350 000 onces d'or par an et un troisième projet, Golden Hill au Burkina Faso, qui pourrait passer à l'étape de l'étude de faisabilité. En 2018, elle a dépassé ses prévisions, enregistrant une production record de 245 230 onces à un coût global de 940 dollars par once. Teranga Gold a réalisé de grands progrès sur sa mine au Sénégal et au Burkina Faso, se rapprochant de son objectif de devenir un producteur d'or intermédiaire à plusieurs actifs en Afrique de l'Ouest. En Algérie, deux centrales électriques d'une capacité individuelle de 160 MW seront construites à Adrar et à Ain Salah et d'autres dans les régions enclavées du pays d'ici 2022. Ecofin rapporte que les deux projets de développement énergétique permettront de garantir une fourniture électrique continue dans les périodes estivales. Il inclut également la mise en place de stations de transfert d'énergie d'une capacité de 220 kW ainsi que 600 km de lignes de transport électrique haute tension. Pour finir, la société chinoise Xiaomi dévoile son nouveau smartphone qui sera sur le marché en mai. Elle pourrait tirer profit des réseaux mobiles 5G plus rapides à un prix inférieur à ceux attendus par des concurrents tels que le leader du marché Samsung. Ce dernier a annoncé la semaine dernière un téléphone pliant 5G innovant au prix de 1 980 dollars. Xiaomi compte aussi étendre ses activités en Afrique cette année.
Et c'est l'heure de la page sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Le championnat national de première division est enfin lancé au Gabon.
Oui, les principaux stades du pays ont vibré au rythme de l'épreuve le week-end passé. Petit bilan, 5 buts marqués en 5 rencontres disputées. Le point avec Ismaël Obiang-Nze à Libreville.
2-0 pour Missil FC en match inaugural de l'épreuve à Libreville face aux visiteurs du FC Mounana. C'était au compte de la poule A, alors qu'à Kanda FC et le centre Mairie Sportif se sont neutralisés. 0-0 au stade de l'Institut de la Jeunesse et des Sports de la capitale gabonaise. Voilà qui ouvrait le bal des scores nul et vierge dans les groupes B et C. Entre Olympique de Mondji et le stade Mondji, aucun but marqué dans cette opposition de l'ouest du pays à Port-Gentil, tout comme le stade Migovéen Las Pélican qui joua au Vindo, l'une des communes voisines de Libreville. Même issue de match pour le néo-promu en division d'élite OIM AC qui recevait à domicile son voisin du nord du pays, l'US Bitam, dans la poule C. En revanche, la poule D offre une petite victoire, c'est celle du champion en titre, Mangaspor, en déplacement à Mouila. Il bat le très fébrile Asdikaki à domicile, 1-0. Classement par poule à l'issue de cette première journée du Gabon Oil National Foot. Missil FC est en tête dans la poule A avec 3 points. CMS et FC Mounana ferment le tableau avec 0 points au compteur. L'Olympique de Mondji, 1 point, s'est interposé en tête de la poule B, partageant le même nombre de points avec ses concurrents Aspelican, Stade Migovéen et Stade Mondji. L'US Bitam est aux commandes de la poule C, suivi d'OIM AC et Uzo. Enfin, Mangasport avec 3 points règne en maître dans la poule D devant Lozo Sport et Asdi Dibaki. Les deux dernières cités joueront pour le compte de la deuxième journée de l'épreuve ce samedi à Mouila, dans le sud du pays. Libreville, Ismaël Obiangze pour la Voix de l'Amérique.
Le sélectionneur zambien va bientôt faire ses valises, Yacouba.
Oui, nommé sélectionneur de la Zambie l'été dernier, Sven Vandenberg n'est pas parvenu à qualifier les Chipolopolo pour la CAN en 2019. Par conséquent, le Belge ne sera pas prolongé au terme de son contrat qui finit en mars prochain. Le technicien restera tout de même en poste jusqu'au dernier match des éliminatoires de la CAN contre la Namibie le 23 mars. La Fédération zambienne de football a aussi annoncé le limogeage de Chintu Kampaba du staff technique en même temps que la nomination d'Agri Tshiangui et de Numba Mumamba bas au poste d'adjoint.
En Europe, le Real Madrid accueille le FC Barcelone pour deux classicos.
Oui, en jeu, une place en finale de Coupe du Roi demain, puis l'issue de la course au titre samedi en Liga. Au stade Santiago Bernabéu, les deux grands d'Espagne s'affrontent deux fois en 72 heures pour décider du dénouement de toute une saison. La demi-finale allée à Barcelone s'était soldée par un match nul 1-1. En Liga, la première manche a été dominée par les Blaugrana qui ont balayé les Madrilènes 5-1 en octobre au Camp Nou. Mais depuis lors, le club merengue a été métamorphosé par son changement d'entraîneur avec Santiago Solari, la Maison Blanche a retrouvé de l'allant et le Bernabéu s'est trouvé un nouveau chouchou, le Brésilien Vinicius.
Merci Yacouba.
le monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Abdourahmane Dia et Raissa Girondin, toujours en votre compagnie. Et on passe au dossier du jour.
Au Nigeria, la commission électorale continue d'égrener les résultats des élections présidentielles et législatives de samedi dernier. Et l'opposition s'impatiente. Comment les Nigérians apprécient ces premiers résultats qui devaient en principe être annoncés dans les 72 heures après le scrutin et pourquoi ce retard? Illustration dans ce portage de Gilbert Tamba à Abuja.
ADC 227, ADP 427.
Dans les salons, restaurants, bureaux, les Nigériens sont devant leurs petits écrans ou encore sur les antennes de radio locales pour suivre l'annonce des résultats partiels. Jusqu'à ce mardi, les chiffres de 20 États sur les 36 que compte le pays ont été agrainés. Le président sortant Muhammadu Buhari est en tête dans 12 États sur 20 annoncés, mais il lui faut gagner dans 25 États de la Fédération pour pouvoir emporter la présidentielle. Installé dans le restaurant d'un hôtel de la place, Emmanuel Mobiko suit avec attention sur une chaîne de télévision locale.
If you look at the past elections, at no time have we spent this.
Entendu, c'est la première fois que cela arrive. On n'a jamais entendu pendant une longtemps une si longue période comme ça. 48 heures après les élections sans avoir des résultats.
Au sein de la population et dans les rues, on suit également l'annonce des résultats partiels. Réaction.
Je suis très déçu des résultats. D'abord, pourquoi tout ce retard? Pourquoi toute cette cérémonie derrière tout ce processus? La CENU a eu assez de temps pour se préparer et faire des choses plus efficaces. Je suis neutre. Ça ne me regarde pas. Qui doit gagner? Mais cela doit être fait dans la transparence. Nous n'avons pas besoin d'attendre des gens, de voyager avec résultats depuis Anambra, par la route jusqu'ici. Nous avons des moyens électroniques. Pourquoi ne pas transférer les résultats par ce moyen rapidement?
Il se dit serein.
L'annonce des résultats se déroule bien. Je suis les résultats et c'est bien. Le Nigeria, c'est mon pays, donc j'aime tous les Nigériens. Je souhaite que celui qui va mieux diriger le Nigeria gagne et qu'il dirige le pays. C'est ça mon avis. Donc comme tout se passe bien, il n'y a pas de problème, même si cela doit durer d'une semaine.
Accuse la CENI du retard dans la publication. Du côté de la CENI, on explique que cela dépend de l'arrivée des résultats en provenance des États. Aliou Bello est le directeur adjoint de la communication de la CENI.
Cela dépend de l'arrivée des résultats en provenance des États. Une fois la compilation des résultats est achevée au niveau des États, la centralisation se fait ici dès que nous recevons les résultats.
Les résultats ne sont que partiels. Le PDP de l'ancien vice-président Atiku Abubakar conteste déjà les résultats. Gilbert Tamba Abuja.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Tchad, de la mise en place de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante divise la classe politique. La CDPC, la coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution, dénonce le caractère sélectif dans la composition de cet organe chargé de l'organisation des élections au Tchad. André Kodmajingar, le correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
Le président Déby a entériné par décret le 21 février la proposition du cadre national de dialogue politique désignant les personnalités membres de la CENI. Ils sont au total 30, dont 15 de l'opposition et 15 de la majorité présidentielle. Ces personnalités choisies parmi les candidats autres que les responsables des partis politiques auront la charge d'organiser les prochaines élections au Tchad. Pour le porte-parole adjoint de la CPDC, Podi Jimé Bichara, la mise en place de cet organe est sélective.
La loi portant création de la CENI dit en son article 3, alinéa 3, fois que les membres de la CENI sont désignés par rapport à la représentation des partis politiques à l'Assemblée nationale et dans les conseils locaux. Il se trouve que les partis politiques membres de la CPDC qui remplissent justement ces conditions-là ont été écartés. D'un autre côté, dans la liste de la composante opposition de la CENI, vous avez des partis qui participent à la gestion du pays auprès du gouvernement et qui figurent sur la liste de l'opposition en violation flagrante de la loi portant statut de l'opposition.
Kram Abel de la majorité présidentielle et membre du cadre national de dialogue politique estime que la CPDC est victime de ses propres turpitudes puisqu'elle a fait une mauvaise lecture des textes.
La CPDC n'a pas envoyé le dossier de représentant au CNDP. Ils ont envoyé le dossier au ministre de l'administration du territoire. Et la même loi 30 qu'ils ont citée dit que c'est le CNDP qui transmet le dossier au gouvernement. Pourquoi ils n'ont pas déposé le dossier ici? Ils sont régis par les institutions de la 4e République. Donc tu ne peux pas contourner une institution pour aller vers une autre. Non.
Le rapporteur général du cadre national de dialogue politique Aladoum Djarma Baltazar, membre de l'opposition, refute les allégations de la CPDC selon lesquelles la mise en place de la CENI ne respecte pas l'article 3 de l'ordonnance 40 portant un statut de l'opposition qui dit « aide l'opposition démocratique les partis politiques ou regroupements des partis politiques qui ne participent pas au gouvernement et ne soutiennent pas son action ».
À notre avis, la commission donc du CNDP, composante opposition, en avait étudié, discuté de la question, mais il nous a manqué d'arguments pour écarter ces partis politiques. La CPDC d'antan qui a fait progresser la démocratie s'est vidée donc de ces éléments nécessaires-là. Aujourd'hui, disent à l'opinion publique quel est le numéro de la constitution qu'ils défendent. Pour le simple fait que la CPDC dit ne pas se reconnaître dans la constitution de la 4e République, c'est du bluff. C'est le film habituel de la CPDC.
Avec cette querelle autour de la mise en place de la CENI, l'opposition est déjà divisée, car même la liste envoyée par son chef de file n'a pas été prise en compte. La majorité présidentielle, quant à elle, sourit en pointe et se frotte les mains. André Kodmadingar Ndiamena pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le FESPACO a 50 ans. Et comme le suggère son thème cette année, c'est le moment de confronter les mémoires et de penser l'avenir du cinéma sur le continent. Dans ce gros plan réalisé par Arzuma Compaoré, nous allons à la rencontre de l'un des doyens du cinéma africain, Souleymane Cissé, double étalon d'or au FESPACO et premier africain à être primé au Festival de Cannes.
Souleymane, d'un cinéaste malien qui a réalisé des films et qui vit au Mali. Le cinéma est un instrument incroyable et une chance extraordinaire pour nos jeunes pays. Parce qu'il y a 35 ans, avant Yélé, on disait toutes sortes de choses sur le cinéma africain. Mais après Yélé, le langage a changé complètement. Et la vision aussi a changé. C'est une certaine forme de combat, pas contre la vie, mais pour la vie. Et pour toute une génération qui me fait revivre et qui me donne la joie de vivre. J'ai trois documentaires que j'ai réalisés sur Martin Scorsese lors de son voyage au Mali et à New York. Donc je suis occupé à monter ces trois documentaires-là. J'ai invité Martin Scorsese de venir nous rendre visite à Bamako. Mais il a accepté, il est venu pendant 4 jours. Il a rencontré des jeunes, il a discuté avec des universitaires, il a discuté avec tout le monde, donc une satisfaction pour lui de découvrir l'Afrique. Et c'est une grande amitié parce qu'il a connu mon film avant de me connaître, Yélé. Et c'est l'admiration qu'il a eue avec ce film. Et le jour où il m'a raconté à Cannes, c'était un grand plaisir, un débat incroyable, un échange. Et donc, je pense que ce trajet... Il faut en faire un film, pas seulement pour que les Maliens puissent voir, mais pour que les Américains eux-mêmes puissent voir quand même qu'il y a des changes.
Moi,
i bɛ yafa n ma ne tun t'a dɔn ko n ka kuma in bɛna b'i gasi la.
Nous sommes en retard parce que le politique n'a jamais compris que le cinéma est un instrument d'avant-garde. Moi, j'ai fait un film, j'ai fait Yélin il y a 35 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un film historique sur Modibo Keïta. Je ne sais même pas à qui au Mali m'adresser. Il est temps que nos politiques nous entendent. On n'est pas des fous, hein, contrairement à ce qu'ils disent aux gens. Le Tespaco marche. Maintenant, il faut qu'il arrive à courir. Et le cinéma africain avance. Doucement, c'est sûr. Mais sûrement.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En Algérie, à moins de deux mois de l'élection présidentielle, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes pour protester contre un éventuel cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Malgré tout, Bouteflika déposera le 3 mars sa candidature. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui son directeur de campagne, Abdelmalek Salal. Le point avec Michel Joseph.
Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues d'Alger. À l'université de la capitale algérienne, de nombreux étudiants scandaient non au cinquième mandat. Bouteflika dégage, Algérie libre et démocratique. Les agents de sécurité ont dû cadenasser les grilles pour les empêcher de sortir du campus. De nombreux autres rassemblements ont été rapportés dans d'autres villes comme Constantine, Tizi Ouzou, Ourgla, Oran et à Annaba dans le nord. Les médias arabes ont diffusé une vidéo montrant des policiers tirant des gaz lacrymogènes à Alger dimanche pour disperser des manifestations. Aucune victime grave n'a été signalée. Lundi, devant le tribunal principal d'Alger, un groupe d'avocats a scandé le slogan familier du printemps arabe appelant à l'éviction du gouvernement. Dans un discours devant le Parlement, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a déclaré que les autorités ne s'opposaient pas aux manifestations tant qu'elles restent pacifiques.
La constitution algérienne garantit le droit de se rassembler pacifiquement et jusqu'à présent, les manifestations sont restées pacifiques. Cependant, je mets en garde contre les appels à manifester de parties inconnues et qui pourraient devenir violentes.
Hier, le Premier ministre a répondu pour la première fois aux protestataires disant que les élections auront bel et bien lieu et que chacun pourra voter librement. Monsieur Bouteflika, président depuis 1999, s'est rendu en Suisse tard dimanche pour ce que son bureau a appelé des examens médicaux de routine. Son directeur de campagne, l'ancien Premier ministre Abdelmalek Al-Salal, a déclaré dans un discours télévisé que la plupart des gens comprennent que la situation est délicate, mais il a réaffirmé que le soutien au président est encore plus fort qu'en 2014.
Il y a encore plus de signatures en faveur de la candidature du président qu'il y en avait en 2014 et cela montre une acceptation totale au niveau national pour le maintien de son mandat.
Abdelmalek Salal a annoncé ce mardi que le président déposera sa candidature auprès du Conseil constitutionnel en respectant les délais. Cependant, l'appui sans faille semble toutefois perdre de l'élan. Un segment des courtiers tirant les ficelles a peut-être laissé ses protestations échapper à tout contrôle. Ces forces occultes sont maintenant prises de court car les manifestants exigent purement et simplement la fin du mandat de Bouteflika et la chute du régime.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à la mise en onde Lionel Gaïma, à la console Sidrak Franklin, à la présentation Abdourahman Dia et Raissa Gironda.
Restez connectés sur notre page Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.